Vous allez en avoir besoin dans la
bocaille. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
Antécédents judiciaires, vous avez déjà été condamné.
Vous parlez de médias,
vous avez été compris le fonctionnement de la République.
Les
policiers là, ils sont assermentés, monsieur.
Si c'est la dernière fois que vous passez devant un tribunal correctionnel, on se retrouve libre.
Bonjour, vous êtes bien sur Tapage. Tapage, c'est une émission sur les violences judiciaires qui a lieu tous les deuxièmes jeudis de chaque mois sur Canal Sud 92.2. Aujourd'hui, on va diffuser un enregistrement d'Aurélie Garand qui est venue à la fête du kiosque à Toulouse le 1er juin dernier pour nous parler de la mort de son frère abattu en mars 2017 par le GIGN. Elle a écrit sur le sujet un livre aux éditions du Bout de la Ville qui est paru en novembre 2022. Et avec elle, dans cette présentation, il y a d'ailleurs Manu et Christa qui l'ont accompagnée dans l'écriture de ce livre et qui se présenteront eux-mêmes un peu plus longuement dans l'enregistrement. Alors pourquoi est-ce qu'on va diffuser cet enregistrement dans ta page? C'est parce que l'histoire d'Aurélie Garand et de sa famille, c'est aussi une histoire de violence judiciaire. Quand les deux tireurs sont mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la famille s'est constituée partie civile. Et en octobre 2018, c'est-à-dire un an et demi plus tard, après la mort d'Angelo, il y a un premier non-lieu qui est prononcé. La juge a considéré à ce moment-là que les gendarmes avaient agi en état de légitime défense. Aurélie et sa famille, ils ont fait appel de cette décision, mais en février 2019, ce non-lieu est confirmé par la cour d'Orléans. Voilà ce que dit Aurélie dans son livre de cette expression non-lieu. Il fait mal ce terme, non-lieu. Surtout pour ceux et celles qui étaient là et qui ont tout entendu. C'est comme leur dire « Vous mentez, en fait il ne s'est rien passé ». Après cette confirmation du non-lieu, Aurélie et sa famille ont essayé d'aller en cassation, mais la cour de cassation a jugé le dossier non recevable. Voilà, aujourd'hui le dossier a été admis par la Cour européenne des droits de l'homme et ils sont encore en attente d'une réponse. De toute façon, elle va longuement parler de ça dans l'enregistrement qui suit. Elle explique aussi que ça n'allait pas de soi pour elle de s'adresser à la justice, mais qu'elle voulait un procès public. Elle voulait que les tueurs aient des comptes à rendre. Elle voulait la vérité et la justice sur la mort de son frère. Parce qu'après tout, comme elle le dit, nous aussi on est censé y avoir droit. Mais pour finir, l'affaire est classée. Voilà ce qu'Aurélie en dit dans son livre. Au moins, on l'aura tenté. Mais la justice française, avec les forces de l'ordre, c'est comme une mère avec ses enfants. Elle les protégera toujours, quoi qu'ils fassent. Aujourd'hui, quand j'entends des familles qui espèrent que la justice fera son travail, j'ai envie de les prévenir. Ah mais non, ne croyez surtout pas ça. Ça n'arrive jamais. Ils s'en foutent complètement de nous. Mais va dire ça à des gens qui souffrent et qui se raccrochent à ce qu'ils peuvent. Tout le monde a besoin de croire en la justice, sauf qu'elle n'existe pas dans leurs tribunaux. Après la présentation, on fera un petit focus sur un article de loi dont il est beaucoup question dans cette présentation, l'article L435-1 du Code de sécurité intérieure. C'est un article qui assouplit les conditions d'ouverture du feu par les forces de l'ordre. Mais voilà, on y reviendra plus tard et pour l'instant, on va écouter la présentation d'Aurélie Garand accompagnée de Manu et de Christa.
Bonjour à tous, merci d'être là. Moi, je m'appelle Aurélie, je suis la sœur d'Angelo. Et on a écrit depuis qu'ils nous ont fait ça. Angelo, c'est mon frère. Mon frère, il a été tué le 30 mars 2017, il y a maintenant 7 ans. Il a été tué chez nous par une équipe du GIGN. Angelo, en fait, il était en prison en 2016. On fait partie de la communauté des gens du voyage. Mon frère, il était en prison et en 2016, en septembre, il a eu une permission de sortie d'une journée. Et il a décidé de pas rentrer. Pendant 6 mois, mon frère, il a vécu dehors dans sa voiture. Il a vécu libre, heureux. Il allait chez qui il voulait, enfin, comme nous, quoi. Et le 30 mars 2017, vers 13h, il vient pour manger chez nous, chez mes parents, une grillade. Et à 13h, on a une antenne du GIGN de jouer les tours. Une vingtaine d'hommes cagoulés, armés jusqu'aux dents. Qui viennent chez nous, enfin une attaque terroriste en fait commise par l'État. Ils viennent chez nous, il y avait mes parents, il y avait mon fils, il avait 3 ans, il y avait mon petit frère. Ils ont mis tout le monde à terre. Et en fait, quand ils sont arrivés, mon père a dit « V'là les Schmitt ». Angelo, il a juste eu le temps de se cacher dans une petite remise. Et une vingtaine d'hommes cagoulés armés débarquent chez nous, mettent toute ma famille à terre, menottés dans l'eau, mitraillettes sous la tempe. fouille le terrain familial, les caravanes. Et à aucun moment, ils demandent où il y a Angelo. Et par contre, c'était fermé là, c'était d'une violence extrême. Vous imaginez mon père de 60 ans allongé sous oxygène respiratoire, allongé par terre, menotté dans les reins. Il y a eu un... Ils étaient prêts à repartir et Angelo, il a fait un petit bruit dans cette remise. Et là, on a 5 hommes du GIGN qui se précipitent dans cette remise et ils abattent mon frère de sang-froid, de 5 balles visées dans les organes vitaux. Et en fait, depuis qu'ils nous ont fait ça, en fait, ils nous ont pas fait que ça, mais la mort d'Angelo, en fait, ça a été la mort de tout le monde dans la famille, et ça a été un besoin de se soulever et de lutter, et c'est pour ça que ce bouquin, il existe, et c'est pour ça que 7 ans après, on est encore là, et en fait, je pense qu'on sera toujours là pour dire la vérité, quoi. Donc, on va commencer à présenter le bouquin en lisant des passages. Et après, ben, je parlerai de certains passages et après, on pourra débattre et discuter avec vous, quoi. Tu gardes le micro
comme ça. Moi, je me dis qu'avant de lire des passages, on va un tout petit peu expliquer qu'est-ce que nous, on fait là avec toi. Parce que du coup, moi, je m'appelle Christa, je fais partie d'un journal anticarcéral qui s'appelle L'Envolée, qui existe depuis 2001. Et nous, ce qu'on fait, c'est relayer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Et donc, c'est une émission de radio qui a lieu une semaine sur deux à Toulouse, l'autre sur, semaine sur deux en région parisienne. Et on sort un journal à peu près tous les 3 mois qui relaye surtout les luttes de l'intérieur, mais aussi on fait un peu le boulot d'analyser ce qui bouge aussi autour des lois et autour de la répression dans la période. Et il y a aussi Manu qui est là avec nous et qui, lui, est là parce que il fait aussi partie de l'Envolée, mais aussi partie des éditions qui sont du coup, enfin, qui est du coup la maison d'édition qui a permis d'éditer ce livre. Et du coup, je vais le laisser parler.
Je vais dire que déjà, c'est un honneur d'avoir fait paraître ce livre. Je vais juste dire comment on s'est rencontrés, en fait, avec Aurélie. Comme on fait partie de l'Envolée, on a forcément on a un genre de veille sur les crimes policiers et les crimes carcéraux. Et en fait, il s'avère qu'Aurélie a fait une vidéo le soir même de la mort de son frère, une vidéo sur Facebook, où en fait on a été très très impressionnés par la compréhension qu'elle avait de ce qui venait de se passer, à savoir que c'était un crime raciste. Et elle le reliait directement à la mort de Ziad Ebouna en disant que en fait c'était la même chose que ce qui est arrivé à Ziad Ebouna. On a été très impressionnés par sa compréhension immédiate de ce qui se passait, quoi. Et du coup on l'a contacté via Facebook et on a fait une interview pour l'envoler tout de suite, quoi. Et après moi j'étais venu à la deuxième manif que vous aviez faite à Blois pour me présenter. Et je t'avais dit qu'on avait une maison d'édition et que si un de ces quatre tu voulais faire un livre, on était là pour toi, quoi. Et donc, on va lire un passage pour commencer.
Moi, je propose plutôt qu'on explique un tout petit peu, avant de lire ce passage, non mais c'est parce que je sais ce que c'est, je pense que c'est bien si Aurélie, tu nous expliques un tout petit peu ce que ça... Enfin, si ça allait de soi pour toi, par exemple, de s'organiser, de lutter, enfin, en particulier après avoir vécu un truc aussi violent. Mais si je me trompe pas, vous avez créé un comité pour Angelo très rapidement, et peut-être que tu peux nous en toucher deux mots.
Nous à la base, on n'est pas militants. Je connaissais rien du militantisme. Et en fait, quand ils ont tué mon frère, je voyais trop ce qu'ils attendaient de nous, en fait. Et je voulais surtout pas aller là où ils nous attendaient. Je voulais aller où ils auraient jamais cru qu'on aurait été, parce qu'en fait, tuer Angelo comme ça, de 5 balles visées dans le thorax, tout de suite, ça m'a ramené à... De toute façon, qui va se soucier de lui, quoi. Et qui va se soucier de lui, j'ai refusé de croire que la société allait croire leurs mensonges, que la société allait nous pointer du doigt, et que pour vous, Angelo, il aurait mérité sa mort. Pour moi, ça, c'était impensable. C'est ce qu'ils ont voulu toujours nous faire croire, que il y avait nous et il y avait vous, les gadgets. Et c'est pour ça que j'ai dit non, on fera pas ça, on va aller chercher les gens et les gens ils doivent savoir la vérité. Et depuis, en fait, les gens, ils sont toujours là. On rencontre des soutiens tout le temps. Et voilà.
Et du coup, je vais vous lire un petit passage du livre. Et je pense que, juste avant de le lire, que ça serait important qu'on explique aussi comment ce livre il a été fait. Juste expliquer, je lis du coup le livre d'Aurélie, mais c'est à sa demande, c'est parce qu'elle préfère pas lire les passages de son livre. Voilà. La marche a démarré et c'est comme si on pouvait enfin hurler tous ces sentiments qui bouillaient en nous. C'était tellement fort qu'on avait tendance à marcher beaucoup trop vite. Ça faisait 3 semaines que je sortais pas de l'état de choc, que je savais plus quel jour on était, que je pensais à rien d'autre qu'à la mise à mort de mon grand frère. Ça nous brûlait à l'intérieur et on pouvait enfin le gueuler. Plus je criais et plus je sentais quelque chose se soulager en moi. On a crié tout le long. J'ai déversé sur la place publique toutes les questions qui nous torturaient. Pourquoi avoir tué Angelo comme ça? Pourquoi lui avoir envoyé le GIGN? Pourquoi ne pas avoir demandé à ma famille où il se cachait? Pourquoi les avoir traités comme des animaux? Pourquoi avoir tiré sans sommation, sans même lui laisser l'occasion de se rendre? Pourquoi les tueurs ne sont toujours pas inquiétés? Pourquoi tous ces mensonges? Je pouvais enfin crier à la face du monde notre vérité. Ils ont exécuté Angelo Garon, comme tant d'autres qu'ils ne jugent pas dignes de vivre. Un slogan revenait en boucle. Zied, Buna, Théo et Adama, on n'oublie pas, on pardonne pas. Avant, pour moi, les manifestants étaient juste des fouilles merdes qui défilaient dans la rue avec des drapeaux. J'écoutais même pas après quoi ils gueulaient. C'est quand même con qu'on ait eu à subir tout ça avant que je remette en cause ce que je pensais de la politique, ou plutôt ce que je pensais pas. Mais ça me permet aujourd'hui d'anticiper les réactions de ceux qui ne sont pas dans la lutte. Je les comprends, j'étais comme eux. Quand on me demandait mon opinion, j'en rigole encore, je répondais. C'est pas mon opinion qui va changer quoi que ce soit. On est beaucoup à voir les choses comme ça. On sait bien que ce n'est pas le système politique qui va nous sauver de notre merde. On sait qu'ils veulent juste nous utiliser parce que c'est rien d'autre que ça, la politique. Comment se servir des gens pour le profit de ceux qui dirigent? Angelo, lui, même s'il ne faisait pas de politique, il avait une conscience, une gamberge qu'on ne trouve pas chez tout le monde. Parfois, il me fatiguait avec ça, je l'écoutais à peine et on se prenait la gueule. Il a fallu qu'il meure pour que j'en vienne à penser. Ton opinion, même si elle change rien, elle existe et tu dois le dire parce que personne ne le dira pour toi.
Oui, comme disait Manu tout à l'heure, en fait, juste après la mort d'Angelo, en fait, ils ont tué mon frère. Ma famille, c'est ma famille qui a fallu qu'elle aille à la brigade pour être entendue, comme si c'était eux les criminels. Enfin, tout de suite, on a vu ce système se mettre en place. Et en fait, on voyait aussi les CRS arriver. En fait, ils attendaient que nous, les émeutes. Et en fait, c'était impensable pour moi de rester comme ça et de marcher dans leur jeu. Donc, j'ai fait cette vidéo. Bah, déjà, j'ai fait cette vidéo pour répondre au procureur. Parce qu'il tue Angelo le 30 mars. Et le lendemain, nous, on n'a pas le droit d'être chez nous. Parce qu'il tue mon frère à 13 heures. Ils viennent prendre le corps de mon frère chez nous à minuit. Et nous, on n'a toujours pas le droit d'être chez nous. Et le lendemain, on n'a toujours pas le droit d'être chez nous parce que on a le procureur de la République, les tueurs. Tout le monde est chez nous en train de faire une remise en situation. En fait, ils sont déjà en train d'arranger la vérité judiciaire, quoi. Du coup, à midi, sur France 3, on a le procureur qui parle de l'exécution de mon frère en parlant tout de suite de légitime défense, la version des tueurs et que la vérité judiciaire, il appelle ça la vérité judiciaire. Et du coup, quand j'entends ça, je me dis, il peut pas dire ça, il a pas le droit, mes parents, tout le monde était là. Nous, on sait la vérité. Angelo, il a été tué sans un mot, sans un bruit, sans une sommation, il n'y a rien eu à part les coups de feu et les 5 balles dans son torse. Du coup, je fais cette vidéo, et elle dure 7 minutes, je crois. Et du coup, je parle vraiment à cœur ouvert, qu'on vient de nous prendre notre frère chez nous. C'est une attaque terroriste, en fait, ce qu'ils ont fait. Enfin, on est jetés de chez nous, ils arrangent la vérité. Et lui, il ouvre sa bouche sur France 3. Du coup, je fais cette vidéo pour que les gens ils sachent la vérité que mon frère, j'ai pas envie. Mon frère, il était pas un ange, mais il était ce qu'il était. J'ai pas envie que mon frère il soit sali, et j'ai pas envie que les gens ils pensent qu'il méritait la mort. Du coup, je fais cette vidéo, et là j'ai du soutien d'envolé, et j'ai aussi du soutien d'autres familles de victimes, d'autres sœurs. Il y a Amal Bentounsi, la sœur d'Amine, Fatou, qui a créé le collectif Vivolé. Maintenant aussi, on est plusieurs familles de victimes. Il y a un réseau d'entraide, justice et vérité. Enfin, on connaît pas les autres familles victimes. Je connais pas ces autres personnes. Mais en fait, on est déjà une famille. À partir du moment où il tue mon frère, les autres familles victimes sont devenues ma famille. Parce que, entre sœurs, en fait, quand on parle avec une sœur et qu'on vient de vivre ça, eh ben, en fait, elle sait, elle a pas connu ton frère, mais elle pleure avec toi. Et là, t'as du vrai soutien. T'as des vrais gens que même les gens de ta famille peuvent pas comprendre de ce que tu veux faire, pourquoi, comment. Et t'as des personnes, en fait, que tu connaissais pas avant et qui sont si proches de toi. Et que du coup, dans ma vidéo, ils sentent bien que je veux lutter et que je le dis même. Je savais même pas comment on faisait une marche ni comment on allait marcher. Mais pour que justice soit rendue à Angelo, pour moi, il faut qu'on marche, il faut qu'on crie. Du coup, aussitôt, grâce au soutien des autres sœurs, on crée le collectif Justice pour Angelo. On est de Blois, c'est dans Loir-et-Cher. C'est militant, mais c'est des militants, des vieux militants qui militent toujours sur la même chose. Et on fait partie des gens du voyage, donc c'est quelque chose de nouveau. Donc, on crée ce collectif. Et de là, c'est là qu'on va dans la rue. Et avec dignité et avec amour, comme Angelo, il était aussi, parce qu'Angelo, il n'était pas que ce que la justice dit à un délinquant, un multirécidiviste. Mon frère, il était une personne, il avait 3 enfants, il avait des parents, il avait des frères, il avait des sœurs, il avait une vie. Il comptait pour nous, et la vie de chaque personne d'ailleurs, même s'ils n'ont pas de famille, elle compte. Et c'est de là qu'on se retrouve à créer le collectif Justice pour Angelo et à créer une lutte autour de la mort d'Angelo. Et en fait, parce que la mort d'Angelo, elle a été classée dans les faits divers. Mais pour moi, la mort d'un homme par l'État, c'est pas un fait divers, ça reste et ça restera tout le temps un fait politique. Et quand on veut parler d'un fait politique, pour moi, c'est que ça concerne tout le monde. Donc, je me dis, notre place, la vérité sur la mort d'Angelo, en fait, ça doit se dérouler dans la rue. Et justement, par rapport aux militants, ou même moi, comme j'étais avant, le but aussi d'avoir marché et réclamé justice et vérité pour Angelo, c'est aussi de tendre la main à ceux qui étaient comme lesquels j'étais avant, en fait, de me dire, c'est des fouilles merdes, on les écoute pas, on sait pas ce qu'ils veulent, on s'en fout, on a notre vie, il y a les gosses qui sortent de l'école. Et en fait, on a fait ça et on continue à faire ça justement pour tendre la main et de pas attendre qu'on soit touché par ça, par la mort, qu'on soit tué son frère pour se lever, quoi. Et ouais, c'est ça, on a créé le collectif Justice pour Angelo et on a marché, on a fait plein de choses et on a touché des gens.
Et peut-être que c'est l'occasion aussi de rappeler déjà la version qu'il y a eu dans les médias le lendemain de sa mort. Et aussi ce à quoi il s'attendait sur place, parce qu'apparemment, il s'attendait à des émeutes, en fait. Et il y avait un petit historique par rapport à ça dans le secteur.
Ouais, comme je disais tout à l'heure, on voyait les bus de CRS arriver devant chez nous, partout, c'était blindé. Et en fait, là, je me suis revue 10 ans à l'arrière, parce qu'il y a 10 ans, pas loin de chez nous, à Saint-Aignan, il y a un cousin qui a été tué, il s'appelait Luigi Duquenet. Et les gens, ils sont révoltés. Et en fait, ils ont parlé sur TF1 et dans les médias d'émeutes. Et en fait, ça a parlé. Maintenant, on parle de l'affaire de Saint-Aignan. Saint-Aignan, dans la tête des gens, c'est les émeutes. Mais en fait, Saint-Aignan, c'est l'affaire de Luigi Duquenet, un jeune voyageur de 22 ans, père d'une petite fille, qui a été tué alors qu'il était passager d'une voiture. Il a été tué dans le côté gauche. Du coup, au niveau des médias, par la gendarmerie, du coup. Parce que Blois, c'est rural et c'est souvent la gendarmerie. Parce que la police tue, la gendarmerie, le GIGN, en fait, l'État tue, quoi. Et en fait, chez nous, les voyageurs, moi, j'ai toujours su que la police tuait. Quand j'étais petite, je savais que le cousin de mon père, il y a 40 ans, il a été tué par la police à Blois. Et après, il y a eu l'affaire de Luigi, il y a eu les révoltes qui se sont découlées aux yeux de la société comme juste des émeutes. Et par rapport au traitement médiatique, je savais que mon frère, le lendemain, il allait être juste le gitan en cavale abattu. Et la vérité, c'est exactement ce qui s'est passé. On n'a pas dormi de la nuit. J'attendais que ça, que 6 heures du matin pour qu'il y ait un truc qui ouvre. Et là, évidemment, c'était vraiment ça, quoi. Première page, le terrain familial de chez nous, un gitan en cavale abattu, multirécidiviste, 17 condamnations, abattu en état de légitime défense. Et voilà, c'est leur version, la version des tueurs, mais pas un mot pour ma famille et quoi que ce soit, quoi.
Est-ce que tu peux juste faire un petit point sur comment la justice a traité l'histoire, comment ça s'est enchaîné hyper vite, et aussi légitime défense, comment est-ce qu'ils l'ont justifié, parce que c'est la couverture du livre aussi.
Il y a un couteau sur le livre parce que mon frère, il avait un couteau comme beaucoup de personnes, comme moi j'en ai un. Mon frère, on habite à la campagne et enfin, on a le droit d'avoir un couteau. Un couteau, c'est pas forcément une arme. Ça peut être c'est un outil pour nous. Mais pour eux, ce couteau, en fait, Angelo, le jour de l'exécution, leur version, la version des menteurs-tueurs, c'est que ils sont 5 hommes à entrer dans cette remise. Angelo aurait brandi un couteau en faisant des gestes circulaires devant 5 hommes du GIGN. Angelo, il aurait pris 5 coups, enfin, il aurait pris 2 coups de taser. Il serait rentré dans une rage avec 2 coups de taser. Il aurait continué à malmener les 5 hommes du GIGN. Angelo, il a pris une première balle dans le cœur. Il était toujours debout en train de les malmener. Deuxième, troisième, quatrième balle. Angelo, il était toujours debout en train de malmener 5 hommes du GIGN avec son couteau en faisant des gestes circulaires. Et ça sort de leur bouche, c'est leur mensonge. En faisant des gestes circulaires, il aurait fallu la 5e balle dans le foie de mon frère pour qu'il tombe par terre. Alors qu'il y avait mes parents à même pas 5 mètres, ils sont rentrés, ça a été direct, il y a eu les balles. Et la justice, en fait, aussitôt, il y a eu la vidéo, il y a eu le collectif, mais aussitôt, grâce au soutien, on a appris qu'il fallait se constituer partie civile. Parce que lui, de son côté, le procureur sur France 3, il nous dit une enquête est ouverte. D'accord. Mais nous, la famille, on ne sait pas qu'il faut se constituer partie civile si que ça, pour être pris en compte d'une plainte. Du coup, grâce à ça, on se constitue partie civile, on a accès au dossier. Ça, en 2017. 2018, on a le premier non-lieu signé par une nouvelle juge d'instruction qu'on nous avait changé pendant l'été. 2019, on fait aussitôt appel, évidemment. 2019, deuxième non-lieu par la cour d'appel d'Orléans. Et deuxième non-lieu, mais par contre, pour la première fois, la justice française applique le L435, le permis de tuer qu'ils utilisent systématiquement maintenant. En 2019, on va à la Cour de cassation. La Cour de cassation n'étudie même pas notre pourvoi, il est aussitôt rejeté. Du coup, en 2019, Angelo il a été tué en 2017. En 2019, c'est terminé pour nous en France. On se constitue, enfin, on va à la Cour européenne des droits de l'homme. En 2020, en décembre 2020, notre dossier, il est accepté à la CEDH. Et depuis 2020, eh ben, c'est le silence de la part de la Cour européenne. Ça, c'est pour vous dire, en fait, la vitesse que le dossier de mon frère, il a été bâclé. En 3 ans, la justice, chaque année, en fait, on a eu une décision de justice défavorable, en s'appuyant uniquement sur des mensonges des gendarmes du GIGN avec le couteau d'Angelo.
Deuxième extrait. Il n'y avait vraiment rien de naturel pour nous à demander justice. Moins on la voit, leur justice, et mieux on se porte. Mais on était déterminés à les battre sur leur propre terrain. Nous aussi, on est censés y avoir droit après tout. On n'est pas des merdes. La moindre des choses, ça serait que les tueurs aient l'occasion de s'imaginer une seconde ce que leurs mensonges nous font vivre. Qu'ils réalisent ce que c'est de ne pas savoir, de ne jamais avoir pu regarder dans les yeux celui qui a visé le cœur d'Angelo et qu'ils nous disent enfin la vérité en face. On parle pas d'un vol, là, ni d'une conduite sans permis, mais d'un meurtre. Et puis rencontrer d'autres proches de victimes m'a confirmé que l'État fait toujours ce qu'il peut pour que ses agents n'aient pas à répondre publiquement de leurs actes. Et ça nous a encore renforcés dans l'idée qu'on allait se battre pour se retrouver devant un tribunal. Encore un endroit où ils ne nous attendaient pas, en tout cas, pas de ce côté-là de la barre. Tout en réclamant justice à corps et à cri, on ne s'est pas trop fait d'illusions. On a été méfiants d'entrée de jeu. On a tout de suite décidé de ne pas prendre pour avocat un branquignol du coin qui aurait traîné dans des tribunaux où le dossier d'Angelo était déjà connu, qui serait arrivé plein de préjugés. On sait bien comment ça marche dans le petit monde de la justice. Ils mangent tous dans la même gamelle. Les avocats de la défense et ceux de la partie civile ont fait les mêmes écoles. Ils bouffent ensemble le midi. Ils s'arrangent entre eux. Deux des cinq gendarmes, les présumés tireurs, ont été mis en examen en septembre 2017 pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ça donnait déjà le ton. Qui peut croire que des bonhommes surentraînés à la lutte antiterroriste et équipés de flingues à visée laser peuvent tuer sans le faire exprès?
Oui, parce que pour Angelo, on nous a quand même envoyé une antenne du GIGN quoi, à 13h. En fait, cette équipe-là, le matin, ils ont fait une intervention à 6h du matin à Angoulême, accompagnée de 120 gendarmes, mission réussie. Pour venir chez nous, en fait, le GIGN, il y avait des gendarmes, mais les gendarmes, ils n'ont pas laissé rentrer les gendarmes, en fait, pour attraper Angelo. C'était vraiment qu'un truc du GIGN. Peu de temps après la mort d'Angelo, on a eu un journaliste qui a fait son travail et qui sort dans la presse, dans Libération. Il a été se renseigner auprès d'un policier et il détient de sources policières qu'il arrive souvent que les antennes du GIGN font des entraînements chez les gens du voyage. Les antennes du GIGN, ils ont été créées en 2016 après les attaques terroristes. En fait, normalement, c'est des groupes qui interviennent que sur des trucs terroristes. Heureusement, il n'y a pas d'attaques terroristes tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'ils font, en fait, l'état de ces personnes-là? Il faut bien les faire bosser. Il sort du coup qu'ils font souvent des entraînements chez les gens du voyage. Alors, l'antenne du GIGN de Joué-les-Tours, ils sont venus, ils ont tué mon frère en 2017. Et en 2018, ils ont une antenne du GIGN de Reims a aussi tué un autre voyageur. Il s'appelait Henri L'Enfant. Il avait 22 ans aussi. Il était père de deux petites filles. Et il a pris une balle dans la nuque par un gendarme d'une antenne du GIGN de Reims.
Non, juste pour la petite histoire, hélas, Henri L'Enfant est mort boulevard Malik Houssekine. Voilà. Je pense qu'on peut peut-être passer quand même à cette histoire d'engrenage carcéral, parce qu'il y a une des raisons aussi qui nous a fait prendre contact avec toi, c'est que tu disais déjà dans la vidéo que la mort de ton frère avait beaucoup à voir avec le fait que c'était un prisonnier, en fait, parce qu'il a passé la moitié de sa vie en prison, quasiment, si je dis pas de bêtises, à faire des allers-retours, quoi. Du coup, peut-être tu peux nous raconter un petit peu son parcours carcéral, comment il s'est retrouvé en prison, comment il s'est retrouvé à faire des allers-retours, et voilà, et ainsi de suite, si ça te va. Ouais.
Bon, d'accord, je lis. Souvent, quand on regarde le parcours des gens tués par la police ou la gendarmerie, il y a de la prison, sans compter ceux qui sont tués par des matons et tous ceux que la prison tue par la maladie, le manque de soins, le désespoir qui les pousse au suicide. Mais c'est rare que les familles en parlent. Est-ce que c'est la honte d'avoir leurs proches au shtar qui fait que trop souvent les gens se taisent? On ne devrait jamais avoir honte de nos frères. On est ce qu'on est, on n'a pas à en avoir honte. Angelo a fait des conneries dans sa vie. C'était loin d'être un ange, personne ne prétend le contraire. Mais la justice et la prison lui ont laissé aucune chance. Chaque fois que la presse parle de lui, elle dit qu'il était en cavale. Mais il a eu une permission de sortie, il n'en est juste pas revenu. Il ne s'est pas natchav en hélicoptère. Cette permission, en prime, c'était n'importe quoi. Une pauvre journée pour le maintien des liens familiaux, sans compter qu'il était à Poitiers et nous à côté de Blois. 4 heures de train en tout. Et puis il le rappelle toujours, ses 19 condamnations, histoire de lui coller une image de criminel endurci, alors qu'il est d'abord tombé pour conduite sans permis, puis pour délit de fuite parce qu'il n'avait pas le permis, puis pour vol. Il n'avait vraiment rien d'un grand voyou. Il savait que d'autres peines allaient tomber. Il n'en pouvait plus. Et c'est bien parce qu'il ne voulait plus retourner dans leur prison de mort que le GIGN l'a exécuté. Donc on s'est dit... Ils veulent parler de prison? Ils veulent nous le reprocher et s'en servir pour justifier sa mort? Pas de problème, on va en parler, mais sur la place publique.
Oui, parce que dès le début de la mort de mon frère, en fait, je me suis dit, il faut parler de la prison. Puisque tout de suite, c'est Angelo, bah, déjà, ils viennent le chercher parce qu'il n'est pas rentré. Angelo, multirécidiviste. Angelo, plusieurs mentions à son casier, nanana. Et en fait, la prison, Angelo, enfin, moi, j'ai été en prison en visiteuse jeune, j'avais 6 mois, je m'en rappelle même pas. En fait, la prison, moi, en tant que visiteuse parloir, j'ai connu ça tout le temps. tout le temps parce que déjà mon père, il a fait beaucoup de prison. Mon père, il a été en prison, il avait 13 ans. Mon père, il a connu l'uniforme, enfin, il a connu vraiment le à 13 ans, quoi. 13 ans en prison. Et après, mon père, au début, c'était des petites peines, mais c'est pareil, les peines sont alourdies. Et d'ailleurs, pour en revenir au GIGN et la prison et qui on envoie et pourquoi, j'ai connu le GIGN quand j'avais 10 ans. Et c'est pour ça aussi, j'ai vu ce qu'il voulait faire avec la mort d'Angelo, ses héros et le mensonge médiatique et tout leur petit système de merde. J'ai vu tout ça. Parce que mon père, quand j'avais 10 ans, en fait, une fois, il avait bu, machin, connerie, avec ses cousins. Ils n'ont pas trouvé mieux le moyen d'aller faire une fromagerie de chèvre. Bref. De là, course-poursuite avec les gendarmes. Ils rentrent chez lui le soir. Moi, je sais pas, j'étais gamine, je dormais. Le lendemain matin, tout le monde se lève. C'était pareil, on habitait un terrain familial. Il y avait mes oncles, mes cousines. Le lendemain matin, je vois l'inquiétude vraiment de mon père, de tout le monde. Et je vois que tout le monde part un peu. Enfin, mes cousines, mon père. Enfin, mon oncle, tout le monde s'en va, mais personne ne revient. Jusqu'à ce qu'il restait que moi, ma mère et mes sœurs, mon frère. Et ma mère, elle commence à dire, moi, je vais aller voir. Et moi, je demande à rester avec mon père. Je reste toute seule avec mon père sur le terrain. Et en fait, je suis une gamine, je joue au vélo, je m'y attends pas. Et je vois mon père arriver sur ce petit chemin à la campagne, là, avec les champs autour. Et en une fraction de seconde, il y a une armée d'hommes en noir qui s'est levée et qu'on dit à mon père, les mains en l'air, les mains en l'air, mon père l'a mis les mains en l'air, il s'est fait arrêter. Pas d'histoire, mais enfin, le lendemain, ça a été quand même tout de suite le tapage médiatique, un gitan, le mensonge médiatique. Il m'a bousillé quand j'étais à l'école, que j'avais 10 ans. Un gitan arrêté par le GIGN, voilà là, le truc, quoi. Enfin, le truc qu'on voit à la télé quand on est gamine, quoi. Comme si que son père, il a fait, on sait pas quoi, mais en fait, il avait juste pété la fromagerie du coin. Et dans les médias, en fait, j'étais... C'était le gitan avec une fillette de 10 ans en otage. Et en fait, cette fillette en otage de 10 ans, c'était juste moi qui avais demandé de rester avec mes parents, enfin avec mon père, ce jour-là. Et c'est pour ça la mort d'Angelo. Je vois le mensonge installé qu'il va falloir charger Angelo comme ils ont chargé mon père à l'époque. L'engrenage carcéral. Et du coup, voilà, mon père, ça y a coûté 4 ans de prison. Ça a coûté... notre enfance encore dans les parloirs. Et après, mon père, il est sorti. Après, Angelo, lui, il est rentré, il avait 10... Il était jeune, ouais, Angelo, quand il est rentré. Il est rentré pour conduite sans permis. Parce qu'Angelo, il a eu le permis, mais on n'est jamais à l'abri de se faire retirer le permis. Ça va tellement vite, les points. Il a eu le permis, s'est fait retirer le permis. Après, il a été en prison pour une conduite sans permis. Il est ressorti. Après, ça a été conduite sans permis, après poursuite, conduite sans permis, poursuite. Après, ça a été conduite sans permis, poursuite, vol, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mon frère, il a été tué à 37 ans, mais à savoir qu'il a essayé quand même de s'en sortir dans sa ville en grenage carcéral. Quand la prison, ils vous disent, tu vas sortir, tu sors. La réinsertion, toutes ces conneries-là, la réinsertion, c'est la personne qui veut se réinsérer. C'est lui qui va chercher du travail. Mon frère, il a travaillé aussi, travaillait dans les vignes, il faisait ce qu'il pouvait. Mais le problème, c'est aussi ce qu'on doit. Alors, on a payé la prison, on a payé par séjour enfermé dans la prison. On sort, mais en fait, on n'est même pas libre encore, parce qu'on doit tout un tas d'argent à l'État. Et en fait, quand on essaye de travailler, qu'on essaye de se réinsérer, comme ils disent, en fait, l'État pompe toute ta paye. Et en fait, Angelo, il travaillait pour presque rien à la fin. C'est pour ça que mon frère, sa dernière peine, il s'est refait prendre encore pourquoi du vol. Et du vol. Et les peines qui arrivaient après, c'était encore du vol. Et en fait, 37 ans et passé toutes ces années-là en prison, même pas voir ses enfants grandir, lui donner une permission, une journée. Mais c'était complètement débile. Une journée pour voir sa famille. En fait, ça se demandait si... Vas-y, cours, démerde-toi, on verra bien ce qu'on fera de toi après, quoi.
Il y a 2 ou 3 ans, on m'a arrêté pour un petit excès de vitesse. Mon deuxième fils avait mis sa ceinture pour une fois. Pendant que son collègue remplissait l'amende, un Schmitt lui a dit « C'est bien, bonhomme, tu t'es attaché. Par contre, tu t'es mis au milieu. Ça serait mieux que tu te mettes à la bonne place. » Jusque-là, je fermais ma gueule. Même si ça me démangeait parce que j'ai le plus grand mal à me retrouver face à un gendarme sans lui parler de mon frère. Mais là, c'était trop. Je lui dis « Écoutez, vous mettez ce que vous voulez pour excès de vitesse. Par contre, des morales de sécurité à mon fils, là, je suis pas d'accord. Il s'est excusé, mais il m'avait trop énervé. J'ai fumé une clope. Ils étaient encore à la jumelle, alors je suis retournée les voir. J'ai une question à vous poser. Je vous vois sur le bord de la route à vous emmerder. On fait pas tous ces entraînements pour se retrouver à faire ça de sa vie quand même. Non, c'est vrai que c'est pas l'ambition première. Je réponds. Par contre, les perquisitions chez les gens du voyage, ça vous aimez, hein? Vous savez pas exactement combien on est, qui est où, dans quelle caravane. C'est la sortie exotique, le petit shoot d'adrénaline, non? Ils ont reconnu que ça faisait partie des trucs excitants de la profession. Ils venaient d'arriver dans le coin, mais le nom, l'adresse, ça avait dû leur faire tilt. Je me suis mise à leur parler de l'exécution d'Angelo, et il y en a un qui a fini par me dire « J'admets que votre frère n'aurait jamais dû mourir comme ça ». Ça lui a pas coûté grand-chose, mais c'était déjà ça. J'ai continué en gardant mon sang-froid. C'est pas contre le bonhomme en particulier que j'en ai, mais votre uniforme, je peux pas me le sentir. Tout ce que je viens de vous raconter sur mon frère, au fond de vous-même, vous le savez bien. C'est ça qu'on appelle la conscience. Vous n'êtes pas innocent. En partant, je les regardais dans le rétro. Ils étaient tous en train de mater leur pompe. Ils n'ont pas retiré l'amende, bien sûr. Rien à foutre. Ils devaient être bien dégoûtés en remballant leur pauvre radar à la fin de la matinée. On doit leur rappeler quel métier de mort ils font. On doit leur foutre dans la gueule à chaque fois qu'on peut, en essayant de garder son calme, même si c'est pas toujours mon fort. Des gendarmes du coin m'ont déjà dit « C'est pas nous pour ton frère ». Je le sais bien que c'est pas toi personnellement, Guignol, mais ça revient au même. Vous êtes tous au courant de ce qui se passe et il n'y a jamais personne qui l'ouvre. Il y a une chose dont ils n'ont pas conscience en face, ou dont ils se moquent, mais que toutes les familles de victimes de l'État doivent apprendre à gérer. Tu éprouves une telle rage envers eux, tu sais tellement comment tourne leur putain de machine que ça te demande un effort énorme pour réussir à ne pas élever tes enfants dans la haine. C'est une grande part du combat, d'arriver à mettre les barrières malgré tout. Tu ne veux pas en faire des monstres, des gens qui pètent les plombs, même si les raisons ne manquent pas. Moi-même, j'ai déjà pensé sérieusement à faire une bêtise. Mais tu te retrouves face au vrai problème. À qui s'en prendre? Les tueurs? Les gens de la prison? Les gens de la justice? Ils sont tous responsables, tous. Ils devraient nous remercier d'être aussi polis. Ils devraient se réjouir qu'on ait des choses qui nous tiennent. Quand tu les vois sur le bord de la route, prêts à t'arrêter, ça te fait comme un flash. Si t'avais rien à perdre, tu pèterais un petit coup de deuxième et puis la raison te revient. Tu ne t'en prendrais pas forcément au pire. Mais ce qui te retient vraiment, c'est tes parents, tes neveux, tes nièces, tes frères, tes sœurs, tes gamins. Ce serait leur infliger une double peine. Et je connais trop la souffrance de ceux et celles qui restent. Ok. Je fais la dernière lecture comme ça. Après, on aura peut-être le temps de faire des échanges parce que je ne sais pas trop à quelle heure il faut qu'on s'arrête. Pour les 5 ans de la mort d'Angelo, j'ai sali les hautes grilles du tribunal de Blois. J'ai vidé plusieurs litres d'encre rouge devant leur palais. Je le fais au moins une fois par an, pour rappeler de quoi ils sont responsables. C'est là qu'a commencé notre combat judiciaire. C'est là qu'ils ont prononcé le premier non-lieu. Mon frère s'est vidé de son sang. Alors dans 10 ans encore, j'irai les éclabousser, parce qu'ils l'ont saigné condamnation après condamnation, avant d'innocenter les gendarmes qui l'ont massacré. Le sang coule encore au palais de justice. Quand quelqu'un essaye de s'arracher de prison, les matons ont le droit de lui tirer dessus. Pour Angelo, il faut croire qu'ils ont laissé le GIGN prendre le relais. Après l'avoir laissé sortir, ils ont raconté partout que c'était un évadé, mais moi, j'appelle ça un déserteur. Ils savaient que l'engrenage allait finir par le broyer, ils ne voulaient pas crever dans leur prison de mort. C'est légitime pour un homme de tenter sa chance. Toute sa vie d'adulte, il aura été un condamné. Depuis qu'ils nous ont fait ça, ils n'ont plus le contrôle sur lui. Il n'est plus un numéro d'écrou. Bientôt, il ne sera même plus un numéro de dossier en cours. Il restera pour toujours Angelo Garon, mon frère. Est-ce que vous avez des questions? On se dit que ça peut être cool de partir de vos questions plutôt de continuer à faire une présentation.
Et merci beaucoup déjà d'être là et de raconter, c'est trop bien. Et tout à l'heure, il y a eu un échange sur comment le livre il est sorti, où tu as dit que vous étiez contacté en disant bah, « si un jour tu veux écrire un livre, viens nous voir ». Et du coup, je me demandais à quel moment tu t'es dit bah, « ça y est, je me sens prête enfin, ». Est-ce que c'était un truc que tu avais toujours dans ta tête, ou est-ce qu'il y a eu un genre de moment où tu es allée et tu as bossé avec les éditions pour écrire?
Bah, en fait, ça s'est passé que bah, il n'y avait plus d'action en justice et que de toute façon, on est resté tout le temps en contact. tout depuis le début de la mort d'Angelo, l'envolée, ils ont toujours été en soutien. Ça a été dans les premiers à nous donner aussi la parole, à nous, la famille. Et il n'y avait plus rien en justice. Et je me dis, c'est bien quand je vais marcher, les prises de parole et tout. Mais il y a tellement à dire que, en fait, faut poser les trucs. Et je crois que c'est comme ça que ça s'est fait, hein, dans ma tête.
Bah, moi, je sais qu'il y a une phrase, qu'avait dit Aurélie très très vite, qui m'avait beaucoup marqué. C'était, on ira toujours là où ils nous attendent pas, quelque chose comme ça. Et Aurélie, elle a pas été très facile à convaincre que c'était intéressant d'écrire un livre, parce que t'as pas une grande culture de l'écriture, des bouquins et tout ça, quoi. C'est pas trop, voilà. Et donc moi, je sais qu'on y tenait beaucoup à faire ce truc. Et que c'est comme ça qu'on a réussi à la convaincre, en fait, en lui disant, t'avais dit que t'irais là où ils ne t'attendent pas. S'il y a bien un endroit où on n'attend pas les gitans, les manouches, les voyageurs, quelle que soit la manière dont l'État les appelle, la communauté des gens du voyage, c'est dans les librairies, les bibliothèques, et ainsi de suite, quoi. Et donc, faire un livre, c'était encore une manière d'être là où ils ne t'attendent pas, quoi. Je crois que c'est comme ça qu'on avait plus ou moins réussi à te convaincre. Après, il y a un truc aussi, c'est que notre maison à nous, on publie que des paroles de premiers concernés. C'est vraiment que des paroles de gens qui vivent ce dont ils parlent, quoi. On n'est pas du tout une maison qui publie des trucs universitaires. Donc, je t'ai aussi montré les bouquins qu'on faisait, et voilà comment donner la parole. Et après, il y a un truc un peu particulier avec la manière dont a été fait ce livre qu'on n'a pas dit encore. C'est que Aurélie, elle se voyait pas prendre une page blanche et commencer à raconter une histoire, quoi, à raconter son histoire. Et donc, en fait, ça a été des entretiens. On a fait beaucoup, beaucoup d'entretiens. Ça a duré pendant un an et demi, je crois, à peu près, du moment où on a décidé de le faire, quoi. On se voyait, on posait des questions, on enregistrait Aurélie. Bon, vous avez vu l'éloquence qu'elle a, on n'a pas trop besoin de... Il n'y a pas grand-chose à retoucher dans ce qu'elle nous racontait, quoi. Et ce qui a été très dur à faire, plutôt, c'est le tri dans tout ce qu'elle nous avait dit, quoi. C'est-à-dire qu'on avait un bouquin de, je pense... on a calculé
600 pages,
quelque chose comme 600 pages, à peu près. Et Aurélie, comme nous, on tenait beaucoup à faire un livre qui soit appropriable par tout le monde, notamment par des gens qui lisent pas beaucoup. Donc on voulait faire un livre court, un livre d'une centaine de pages, quoi. Et donc tout le taf, ça a été ça, en fait, de faire des entretiens, nous on retranscrivait, on lui faisait dire ce qu'on avait retranscrit, on virait des trucs, on reposait des questions, on refaisait des entretiens, ainsi de suite, quoi, pour amender le truc. Et après, on a fait du tri, quoi, pour essayer de faire un livre le plus percutant possible et le plus court possible, quoi. Ça s'est fait à peu près comme ça. Et Aurélie, qui se prétendait pas autrice, j'ai le souvenir que juste avant de l'envoyer chez l'imprimeur, on a encore changé un adjectif et une virgule au téléphone, quoi.
Tu as parlé de la Cour européenne des droits de l'homme, qui ont accepté le dossier, c'est comme ça que tu l'as dit. Est-ce que ça veut dire maintenant que c'est sûr qu'il va y avoir un procès? Ou est-ce que peut y avoir encore un non-lieu maintenant?
Il n'y aura jamais de procès. Les tueurs, en fait, d'Angelo, ils vivent tranquilles, ils auront jamais, il n'y aura jamais de procès public. C'est là-dessus, en fait, que le L435, il a son importance. Ça veut dire, c'est un permis de tuer, quoi. C'est, il n'y a pas de procès. Même les non-lieux qu'on a eus, comme j'explique dans le bouquin, c'est que des non-lieux de bureau. Ça se décide entre la juge, le procureur, les réquisitions, machin. C'est du ping-pong, mais du ping-pong entre eux, quoi. Et à la Cour européenne, notre dossier, il a été reçu. Ça veut dire qu'il va être examiné. Mais en aucun cas, en fait, les tueurs d'Angelo, ils répondront à leurs mensonges et à leurs crimes. Ce qu'on peut espérer de la Cour européenne, en fait, c'est qu'on attaque l'État français. C'est juste l'État français est reconnu. Si on gagne, c'est même pas gagné. Parce qu'en fait, le poids aussi sur les épaules de la Cour européenne de valider le L435 pour la première fois. C'est pour ça peut-être aussi que c'est long depuis 3 ans et qu'en 3 ans, on a été balayé en France. Oui, parce que le L435, c'est écrit à la fin du bouquin. On a 5 alinéas. Et en fait, sur les 5, ils sont tous les plus fous les uns que les autres. En fait, comme pour Angelo, le coup du couteau, enfin, les refus d'obtempérer, la voiture, c'est considéré comme une arme. En fait, ce qui est hallucinant complètement, c'est que le policier, le gendarme ou peu importe le guignol qui porte une arme au service de l'État, s'il pense ou il imagine, c'est quand même fou ça, hein, s'il imagine, il peut sortir son arme et te tuer dans le dos. Et c'est légal. En fait, s'il imagine qu'il est en danger, voilà, ou que la vie d'autrui est en danger, la sienne, ses collègues ou autrui sont en danger. Au bout de deux sommations, si tu te mets à courir, le policier dit arrête-toi deux fois, il a le droit de te dégainer l'arme et te tuer dans le dos, et c'est légal. En fait, quand avant on me disait, enfin même maintenant, la justice a fait son travail. Ça y est, je commence à l'accepter. La justice a fait son travail. Mais en fait, la justice a fait un travail de merde. Un travail qui donne un permis de tuer à l'autorité publique. Jamais on n'aura de procès, en fait. La CEDH, tout ce qu'on peut espérer, c'est que voilà, l'État français soit condamné pour avoir violé le droit à la vie d'Angelo. Et en contrepartie, ce qui est vraiment malsain et qui est la torture pour les familles, j'ai dit, j'irai jusqu'au bout, j'y étais. Enfin, judiciairement, c'est bon, les papiers, on a fini. Mais arriver à la CEDH, c'est à nous, la famille, de demander de l'argent, comme si que la vie de mon frère valait quelque chose ou que j'ai quelque chose à gagner dans tout le combat ou peu importe, et de mettre une valeur et de justifier notre lien avec mon frère. Il faut que mon père y justifie son lien, que moi justifie le manque ou ce que ça m'a impacté dans ma vie, la mort d'Angelo. Et c'est comme ça qu'on doit monter un dossier devant la CEDH en réclamant une somme d'argent, en attaquant l'article 2 du violation du droit à la vie. C'est pourri. Mais il faut le faire. Et franchement, malgré que toute la justice soit pourrie, la justice, elle a rendu son travail. Mais je suis fière de moi et je suis fière de toutes les familles, même que si on n'a pas eu procès, parce que c'est pour ça qu'on s'est battu, nous. C'est pour qu'ils viennent dire leurs mensonges et que devant la société, le mensonge soit mis à évidence et que la vérité éclate, en fait. Parce que moi, personnellement, moi, la condamnation des gendarmes, j'en ai rien à foutre parce que on est moi, je suis anticarcérale. Je vois pas en quoi ça revient. Ça me ramènerait pas mon frère qu'ils aient été en prison. Mais à minima, ce que j'aurais demandé, c'est qu'ils n'exercent plus. Parce que quand on tue, enfin, même un médecin qui va faire une erreur médicale, il peut être, devenir jardinier du jour au lendemain. Je vois pas pourquoi à chaque fois que la police, les gendarmes ou l'État tuent, soit on les mute, enfin, on leur donne une récompense. Mais au-delà de la condamnation, quand on parle de condamnation, dans notre tête, on se dit toujours la prison. Mais non. Déjà, ce qui serait juste au niveau de la justice, c'est que quand la force publique tue, on a un procès public, et à minima, qui n'exerce plus. Enfin, au moins ça. C'est pas non plus la mer à boire, et en plus, c'est même pas la mort pour eux. Eux, ils verront leurs enfants, mais mes neveux et nièces, ils verront plus jamais leur père. À minima, on sait ce qu'on pourrait demander de la justice. Mais le système judiciaire, c'est pour ça que j'accepte que maintenant la justice a fait son travail. C'est le système judiciaire, c'est la vérité judiciaire dont le procureur parlait sur France 3 le lendemain de la mort de mon frère. Il parlait de vérité judiciaire. En fait, la vérité judiciaire, elle se base sur un mensonge de légitime défense avec laquelle ils appliquent pour la première fois le L435, auquel ils donnent un permis de tuer à la force publique. Et en fait, quoi de mieux que ça soit appliqué pour la première fois avec le GIGN, parce qu'à la base, le GIGN, voilà, c'est quand même... C'est pas le policier municipal, quoi.
Ouais, parce que ce qui est terrible, en fait, c'est que le fait que vous soyez allé en justice, ça fait que le L435 a été appliqué pour la première fois pour ton frère et que ça fait jurisprudence pour toutes les morts qui suivent, en fait. Donc, dans les dossiers maintenant de légitimation de la mort de quelqu'un, il y a le nom d'Angelo Garand cité comme la première fois qu'a été appliqué le L435.
Enfin, le numéro de l'affaire, quoi.
Ouais, le numéro de l'affaire, ouais.
Parce que ça, en fait, quand on s'est constitué par civil, on a fait le truc de justice. Et en fait, je me dis, il ne faut pas que la mort de mon frère a serve à rien. Mais en vérité, j'ai marché dans leur jeu et je ne regrette pas. Mais quand ils nous ont rendu la première fois, la deuxième fois en appel, le non-lieu avec le L435, c'est comme l'a confirmé la Cour de cassation, sous le numéro blablabla et le numéro blablabla. Et quand on va fouiller ces numéros-là, en fait, pour justifier le L435 appliqué sur la mort d'Angelo, ils se sont servis de la mort de Houssine Bourras, tué à Strasbourg, qui avait, pendant une extraction, quelqu'un qui était en prison, une extraction au tribunal, et il a été tué en 2014, je crois, je sais plus si je dis pas d'erreur. Et ils se sont servis aussi de Luigi Duquenet. Et quand on a eu ça, je me suis dit, merde. Du coup, je suis sûre que, en fait, la mort de mon frère, elle a servi au système judiciaire à justifier d'autres morts qu'il y a eu après. Et Dieu sait combien il y a eu de morts depuis 2017. Enfin, tout le monde le sait, maintenant, c'est plus un secret.
Les chiffres, ils ont gonflé quand même.
Ouais.
Bah, il n'y a pas si longtemps, on était à 7-8 morts par an et maintenant, on est à quasi plus de 30. Moi, j'ai une question. Non, mais je ne sais pas, mais vu que tu es une des premières personnes qui parle et qui explique, par exemple, dans son livre que tu viens de la communauté des gens du voyage ou ce qu'on appelle comme ça, est-ce que... en fait, je te pose cette question parce que je crois que c'est important pour toi d'expliquer ça. Est-ce que tu te vois comme une porte-parole des gens du voyage?
Pas du tout. Moi, en fait, je suis classeur d'Angelo et j'estime et j'encourage tout le monde, gens du voyage ou pas, en fait, que quand il est concerné, que ça soit à lui de parler. Moi, je suis juste classeur d'Angelo. Je suis même pas porte-parole des familles détruites par les violences pénitentiaires ou de l'État, enfin, de tout le monde, quoi. Je suis classeur d'Angelo et je parle que en mon nom, quoi. Enfin.
Et si je me trompe pas, tu dis aussi que, en fait, c'est parce que Angelo, il a été tué en tant que voyageur que toi, en fait, t'es obligé de rappeler ça et de rappeler que le racisme d'État, il se base aussi là-dessus. Enfin, que c'est aussi pour ça que, comment dire, que par exemple, ça a été si simple dans les journaux, par exemple, de salir Angelo.
Oui, et puis pas que dans les journaux. Pour en revenir encore à la justice, à chaque ordonnance de non-lieu, c'est toujours Angelo Garand appartenant à la communauté des gens du voyage. En fait, ça justifie, aux yeux du système judiciaire et des médias, pour justifier à la société, que d'appartenir à la communauté des gens du voyage, eh ben, en fait, c'est déjà une raison en fait, pour laquelle il est mort, quoi.
Juste, il y a un précédent historique. Ils ont passé ces gens-là, ils ont passé la guerre dans des camps où ils ont crevé la dalle. Ces gens-là, on leur a imposé un carnet pour le simple fait de ne pas être posé, tout simplement. Et de même que les mariniers aussi. Alors les mariniers, ça n'a rien à voir, c'était quand même notre classe, mais les mariniers, ils n'avaient pas droit non plus ni de vote, et ils devaient avoir un carnet aussi et se reporter aux autorités. Donc, je veux dire, on ne va pas effacer des décennies de discrimination et de mépris comme ça. Et c'est ça qui revient encore, et qui est effectivement spécifique à certaines communautés, même si, moi je sais pas la différence qu'il y a entre des yéniches et des autres, ou des vins, enfin, je ne sais rien. Je m'en fiche d'ailleurs, mais voilà quoi. Il y a un passé très lourd en France, là-dessus. Et ailleurs aussi.
En fait, je vais lire un tout petit passage du livre d'Aurélie aussi, parce qu'elle explique ça très bien plutôt qu'on réexplique ça. C'est un passage où Aurélie parle de Raymond Gurem, un grand militant qui, lui, était forain, un grand résistant, tout à fait, plutôt que militant. Mais on pourra en parler après. Du coup, c'est un chapitre où elle explique son histoire. Au début du siècle, ils avaient obligé tous ceux qu'ils désignaient comme nomades à porter toujours sur eux un carnet de circulation individuelle anthropométrique avec tes empreintes digitales, ta date et ton lieu de naissance, ta profession, ta description physique complète et des pages réservées pour les visas. Tu devais faire signer ton carnet dès que tu entrais ou que tu sortais d'une ville. Les nomades devaient aussi avoir un carnet collectif sur lequel étaient notés les noms de tous ceux qui voyageaient ensemble. Et si les Schmitt t'arrêtaient et qu'il manquait un des deux carnets, direction prison. Ils avaient un fichier central qui répertoriait tout ça, bien avant la carte d'identité obligatoire. On a été les premiers fichés. Ils savaient toujours qui était où et avec qui. Ce qui leur a bien facilité la tâche pour tous nous enfermer quand ils ont décidé qu'on n'avait plus le droit de voyager. C'est une très vieille obsession pour l'État de chercher à nous domestiquer, à nous mettre dans des cases pour prendre le contrôle sur nous. Les carnets anthropométriques n'ont été supprimés qu'à la fin des années 60. Alors, elle ne nous vient pas de nulle part, notre méfiance pour les gadgets. Elle vient de l'histoire et on en a tiré les leçons. Depuis qu'ils nous ont fait ça, on sait que l'État ne sera jamais de notre côté. Raymond s'est battu une grande partie de sa vie pour faire savoir le traitement réservé aux voyageurs pendant la guerre et pour que la France reconnaisse ses responsabilités. Dommage qu'il n'ait pas été plus écouté, parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il est venu à plusieurs marches pour Angelo et j'ai participé à quelques événements et discussions avec lui. J'adorais cet homme. C'était mon rayon de soleil à chaque fois que je le voyais. La dernière fois, c'était à Paris, peu de temps avant sa mort en mai 2020. On avait rendez-vous pour tourner dans un documentaire. Je crois que je vais m'arrêter parce que si je lis, ça va être très très long. Mais voilà. Mais peut-être qu'on peut rappeler aussi que du coup, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en effet, toutes les personnes qui étaient considérées nomades, elles ont été enfermées et elles ont même été enfermées beaucoup plus longtemps qu'après la libération, elles ont été enfermées plus d'un an, en fait, avant l'an... Enfin, en fait, elles ont été libérées en 46. Et on leur avait tout volé. Du coup, on leur... Enfin, en gros, toutes les personnes qui vivaient en caravane, elles ont perdu leur caravane, toutes les roulottes, tout. Enfin, par exemple, Raymond, lui, c'était quelqu'un qui était forain, qui ramenait le cinéma dans les villages, alors qu'il n'y avait pas du tout de cinéma à cette époque-là. Et ils ont perdu tout leur matériel. Et du coup, tout le monde est devenu encore plus... Enfin, complètement pauvre, ils n'avaient plus rien du tout. Et c'est une histoire qui, on se rend compte, est un peu racontée, mais très peu aussi, parce que c'est une histoire traumatique en vrai, quoi. Enfin, ça a été des vrais camps d'internement pendant toute la guerre. Et Raymond Gurem a écrit un livre, si jamais, qui s'appelle Interdit aux nomades. Moi, j'ai une question, alors. En fait, toutes les familles de victimes de violences policières ou pénitentiaires qui ont décidé de se battre, parce que c'est pas toutes les personnes qui trouvent la ressource, l'argent, le temps, la force, les capacités psychologiques, etc. de le faire, mais elles se battent pour avoir un procès. On sait que la plupart d'entre elles n'en ont pas, même si la plupart se battent pour ça. Et moi, je me disais que peut-être c'était l'occasion d'en discuter un peu et de... Enfin, toi, tu nous as dit un petit peu, Aurélie, le pourquoi t'aurais attendu à avoir un procès. Mais je sais que dans le livre, tu parles aussi de... Comment dire? De comment tu penses que vous auriez été traité à ce procès-là et est-ce que ça aurait été une partie de plaisir? Je sais pas comment dire ça.
Bah, en fait, je pense que ça aurait été une torture, en fait, d'avoir aussi un procès parce que il aurait fallu entendre leurs mensonges. Et en plus d'entendre leurs mensonges, il aurait bien fallu faire face à leur avocat parce que eux, ils ont un avocat aussi spécial, Maître Liénard, l'avocat qui défend tous les flics, un pro-arme, enfin un pro-L435. Celui-là, il était vraiment... D'ailleurs, quand on a pris en appel pour la première fois le L435, il s'est réjoui dans les journaux en disant... Ah, ça fera un article de loi sur lequel les forces de l'ordre ils pourront enfin se reposer. Franchement, lui, ça en dit long sur la ligne qui tient. Et en appel, en fait, il y avait notre avocate. Parce que nous, en fait, en appel, quand ils ont utilisé le L435 la première fois, l'appel, il s'est déroulé dans la grande salle, mais juste procureur, juge et avocat. En fait, moi et ma mère, on est restés devant cette grande porte qui nous est restée fermée. Où on a Maître Liénard qui a pris, comme on milite, on avait des tracts pour Angelo pour dire ce qui s'était passé, ce qu'ils avaient fait, ce qu'on veut, la justice et la vérité simplement. Et lui, il a lu un autre acte, mais là, le mépris envers moi et ma famille, il lit le tract et il regarde la juge et il lui a dit, vous voyez, c'est l'avocat qui bourre la tête à la famille, c'est impossible que la famille puisse écrire ça. Voilà comment ça s'est passé, en fait, à la cour d'appel, sans que nous, on soit là, quoi. Alors, lui, il est sorti. Avec ma mère, on s'y attendait pas du tout. On était assises, il nous a regardés de haut, il nous a souri, il nous a méprisés. Et là, on voit derrière nos deux avocates qui reviennent avec ma mère, mais elles étaient blanches. Et là, notre avocate m'a dit, Aurélie, ce que j'ai entendu aujourd'hui sur ton frère, heureusement que tu ne l'as pas entendu, je te promets, Angelo, il a ventilé dans son cercueil. Alors, j'imagine avoir un procès face à ça, ce que ça peut être. D'ailleurs, pour revenir à Henri L'Enfant, ils ont eu une victoire. Mais derrière, c'est une victoire, en fait, que j'imagine, je suis pas à leur place, je ne sais pas. Je ne parle pas leur nom. Mais j'imagine que qu'est-ce que ça doit leur coûter cher. La femme d'Henri m'a dit, Aurélie, chaque jour du tribunal, ils ont retué Henri. Parce que Henri, il est coupable de sa mort, en fait, pour eux. La façon dont ils ont parlé, en fait, c'est ça le problème de la justice. C'est que le mort, en fait, il n'est pas une victime. En fait, il est coupable de sa mort parce que, il appartient à la communauté des gens du voyage, parce qu'il a fait de la prison, parce que ceci, juste parce qu'il rentre pas dans la case de laquelle l'État, en fait, veut qu'on rentre dans ces cases-là. Alors, leur case à eux.
Est-ce qu'il y a des dates pour commémorer sa mort, des rendez-vous plus tard, tout ça?
Ça fait un moment qu'on n'a pas organisé de marche pour Angelo, parce que en fait, ça, ça me met mal maintenant. J'ai plus envie de réclamer justice pour Angelo, puisque j'ai emmagasiné que justice a été rendue et que je suis là aujourd'hui pour dénoncer cette justice de merde, en fait, qui n'est pas juste. La justice institutionnelle a été rendue. On fait plus de marche pour Angelo, mais par contre, on continue à marcher avec les autres familles qui réclament justice pour commémorer, pour la lutte, pour le droit à la vie de tous, même que ça soit pas spécialement par la police. Ça peut être quelqu'un qui meurt en prison, toutes les violences d'État, les mutilés, on a vu aussi tout ce qu'il y a eu. Enfin, il y a de quoi faire, en fait, pour lutter. Et je me dis qu'à chaque fois que je participe à ces trucs-là, en fait, on rend hommage à Angelo en rendant hommage aux autres. Et comme, en fait, comme on a marché, quand je disais on marche pour Angelo, mais en fait, pas seulement. Parce que quand on marche pour un, en fait, on marche pour tous. Parce que malgré nous, on est devenu une famille, en fait, de... Moi, je suis encore vivante, mon frère, il est mort, mais nous, on est vivants, mais on est mutilés, en fait, par l'État, on est mutilés dans notre chair, ils nous ont pris un bout de nous. Donc, non, pour Angelo, on n'organise plus de marches et de commémorations, mais je suis sûre qu'en fait, pas très loin d'ici, ou bientôt, il y a sûrement une famille qui aurait besoin, en fait, et vraiment besoin, parce que quand j'ai marché pour mon frère et que j'ai vu qu'il y avait des gens extérieurs, mais pff, quel soulagement, quelle paix. Et des fois, on me dit quelle force, Aurélie, t'as. Mais en fait, c'est pas moi qui ai de la force, c'est le soutien qui me donne de la force. C'est Angelo, enfin, ce que j'ai vécu avec mon frère qui me donne de la force. Et je pense que sincèrement, on n'a plus besoin de rendre hommage à Angelo. On doit rendre hommage en rendant hommage aux autres, on rend hommage à Angelo. Et je pense que si vous connaissez une famille de victimes pas très loin de chez vous, je vous demande, je vous invite à les rejoindre si vous voulez aider, parce que chaque famille, il a besoin, même juste, je te crois, c'est des enculés. La famille, là, sont moins seules, franchement.
Ok, on s'arrête là. Merci Aurélie.
Voilà, c'était Aurélie Garand qui est venue nous parler de son livre « Depuis qu'ils nous ont fait ça », accompagnée de Manu et Christa. Là, on va écouter les Clash et on se retrouve après pour un focus sur la loi dont elle a pas mal parlé dans cette présentation, le fameux permis de tuer.
Trigger of your gun.
vient d'écouter Les Clash, Guns of Brixton, et on est toujours sur Tapage, une émission de Canal Sud sur les violences judiciaires. Donc vous l'avez entendu, il a été beaucoup question de l'article 435-1 du Code de la Sécurité Intérieure, qui a élargi, on l'a dit, en 2017, les conditions d'ouverture du feu par les policiers. Nous, on voulait parler de ça, parce que c'est là un nouvel exemple de la pression que les forces de l'ordre font peser sur les gouvernements, et du souci que les gouvernements, de droite comme de gauche, ont de les mettre dans la poche. Sur ce sujet, les dernières élections de 2022 étaient particulièrement caricaturales. On se souvient que le syndicat Alliance avait convié les candidats, de droite et de gauche, à un grand oral. Donc ceux de gauche n'y étaient pas allés, mais Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Éric Zemmour y étaient allés, et Gérald Darmanin pour le président Macron. Et du coup, ils sont passés là devant le syndicat Alliance pour leur dire leur soutien aux forces de l'ordre, leur présenter le programme en matière de sécurité, faire des tas de promesses. Plus d'effectifs, de meilleurs salaires, des places en détention, le rétablissement des peines planchers, une vraie perpétuité, comme ils disent. Enfin, tout un tas de choses de ce registre-là. Darmanin, quand il était ministre de l'Intérieur, a lui-même fait ses petits cadeaux. Il a par exemple mis en place la gratuité des trains pour les policiers. Sous prétexte de sécuriser les trains, selon les mots qu'il employait, le billet est pris en charge par le ministère de l'Intérieur, à condition toutefois que les policiers portent leur arme de service. À pas mal d'égards, cet article 435-1, c'est lui aussi un cadeau qui répond à des réclamations des forces de l'ordre, notamment des syndicats policiers. Mais on va commencer par parler du contexte d'adoption de cette loi. C'est une loi qui fait suite à ce qui s'est passé en octobre 2016. À cette date, il y a une attaque de deux voitures de police à la Grande Borne. La Grande Borne, c'est un quartier de Viry-Châtillon dans l'Essonne. Et au cours de cette attaque, il y a un policier et une policière qui sont gravement blessés par des cocktails Molotov jetés dans les véhicules. Et ça déclenche un très gros mouvement policier. Si gros d'ailleurs que les syndicats de police, Alliance en tête, sont un peu débordés par leur base. Et une des manières de reprendre la main sur le mouvement, ça a été de s'aligner avec les revendications les plus extrêmes. Et parmi ces revendications, il y a toujours un peu la même chose en fait. Il y a des revendications qui concernent le soi-disant laxisme de la justice. Par exemple, ils réclamaient le rétablissement des peines planchers pour les agressions commises contre eux. Un peu dans le même registre, ils voulaient que la répression des outrages sur les forces de l'ordre s'aligne sur celle des outrages à magistrats. Qui est les outrages à magistrats jusqu'à maintenant en cours des peines deux fois plus importantes. Et la troisième revendication, c'était la révision du cadre juridique de l'emploi des armes. Pour le dire autrement, du coup, il demandait l'assouplissement de la légitime défense. Même si on va quand même le préciser, il a toujours été très rare que les policiers soient poursuivis et à plus forte raison condamnés. Il voulait, cela dit, que ce soit écrit dans la loi. Du coup, c'est cette troisième chose qui nous intéresse aujourd'hui et qu'ils ont obtenue. Le gouvernement socialiste, d'ailleurs à quelques mois des présidentielles, a décidé d'accéder à cette demande et a adopté fin février 2017 l'article 435-1 du Code de sécurité intérieure. C'est un article qui décrit les situations dans lesquelles les forces de l'ordre peuvent faire usage de leurs armes. Par exemple, dans le premier alinéa, il est dit que policiers et gendarmes peuvent utiliser leurs armes lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui, ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celle d'autrui. Mais il y a un des alinéas qui a suscité pas mal de critiques, c'est le quatrième. Parce que ce quatrième alinéa autorise les forces de l'ordre à tirer pour immobiliser un véhicule, je cite, « dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à la vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui ». On voit bien que les termes sont vagues et autorisent des interprétations assez vastes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le nombre de tirs sur des véhicules en mouvement, comme on dit, a augmenté beaucoup, beaucoup. L'année de la réforme, ce type de tir a augmenté de près de 50%. On est passé de 140 tirs en mouvement en 2016 à 205 en 2017. Derrière, ça a arrêté de monter, mais ça s'est stabilisé à un niveau plus élevé qu'avant la réforme. Et évidemment, le nombre de blessés et le nombre de morts dans ces situations a augmenté pas mal. Par exemple, pour la seule année 2022, il y a 13 personnes qui ont été tuées à l'occasion d'un de ces tirs. On a tous en tête la mort de Naël Merzouk, abattu pendant un contrôle routier à Nanterre en juin 2023. À cette occasion, il a beaucoup été question à nouveau de l'article 435-1, et notamment de l'alinéa 4 qu'autorise à tirer lors des contrôles routiers et des refus d'obtempérer. Ça avait même déclenché la rédaction d'un rapport parlementaire, d'ailleurs dont les résultats sont sortis en mai dernier, là tout récemment. Rapport rédigé par deux députés, Renaissance et PS, bon, et au terme duquel ils refusent de faire le lien entre l'augmentation du nombre de tirs policiers sur des véhicules lors de refus d'obtempérer et l'assouplissement du cadre légal voté en 2017. Et il y a encore quelques jours, il y a un jeune de 19 ans qui a été tué par une policière dans la Manche. Policière qui a tiré sur lui et l'a tué quand il a tenté de s'enfuir à pied. Donc on voit que les cadeaux du gouvernement peuvent avoir des conséquences tout à fait dramatiques, sachant qu'ils en veulent plus. Les policiers aujourd'hui encore continuent à demander l'élargissement de la notion de légitime défense et demandent même ce qu'ils appellent une présomption de légitime défense. Parce que normalement, là, telle que la situation existe, quand ils abattent quelqu'un, il y a une enquête, ils sont convoqués et ils sont censés faire la preuve qu'ils ont agi dans le cadre de la loi. Avec la présomption de légitime défense, plus besoin de faire la preuve de quoi que ce soit. On considérerait par défaut dans les enquêtes qu'on était dans le cadre de légitime défense. Voilà, c'est la fin de ce petit focus sur la loi 435-1, dite aussi permis de tuer. C'est aussi la fin de cette émission et on se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission. Et on se quitte comme d'habitude avec ce formidable générique.
Comme le juge avait mal mangé, le premier prévenu fera un an de prison pour un porte-monnaie volé à une dame dans la rue qui sortait de sa maison. Pas de chance, pense l'avocat, on serait tombé lundi ou mardi dernier. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même un an, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le deuxième prévenu fera 2 ans de prison. À 20 ans, quelle idée d'emprunter la DS à injection d'un haut fonctionnaire en fonction. Pas de chance, pense l'avocat, monsieur le juge, j'aurais mieux digéré. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même 2 ans, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le troisième prévenu fera 4 ans de prison. On ne vole pas quand on est étranger, sans permis de séjour et sans qualification. Comme le juge était fatigué, le dernier prévenu ira dormir en prison. Il attendra pour être jugé quelques jours ou quelques mois. Question d'organisation. Ti-da-da, di-di-di-du-da, du-du-da, di-du-da, du-du-ti-da-di-du-da. Ti-da-da, di-di-di-du-da, du-du-da, di-du-da, du-du-ti-da-di-du-da. Ti-da-da, di-di-di-du-da, du-du-da, di-du-da, du-du-ti-da-di-du-da. Ti-da-da, di-di-di-du-da, du-du-da, di-du-da, du-du-ti-da-di-du-da.